La marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Voici le vol nuptial du martin pêcheur qui papillonne au-dessus de l'eau comme un bijou bleu et vert.
Toute cette semaine avec Valérie Chansigaud, l'immense toile de la nature. Premier épisode, Pénélope et les araignées.
Qu'est-ce que tu apprends comme récitation à l'école ? Et un jour, j'avais quelque chose de Victor Hugo, je ne sais plus quoi. Et il m'a dit, le plus beau morceau de Victor Hugo, c'est celui-ci. J'aime l'araignée et j'aime l'ortie parce qu'on les hait. Alors il s'est retourné vers mon père et il a dit, ah, qui dit mieux ? Tu m'embêtes toujours que je ne balaye pas, que je n'enlève pas les araignées, que ceci, que cela. Mais tout de même, j'ai une caution, j'ai Victor Hugo qui les aimait aussi.
Et nous avons la caution de la poétesse Marie Moron. Alors parlons de Valérie Chansigaud. Toute jeune, elle a fondé une revue entièrement consacrée aux scorpions, pseudo-scorpions, aux faucheux et aux araignées. Il va être beaucoup question de ses premiers pas aujourd'hui. Cette revue s'appelait Pénélope. Devenue historienne de l'environnement, elle a versé dans les disciplines de pointe que mobilise l'écologie, biologie, génétique, etc. Mais elle garde toute leur place aux sciences naturelles par lesquelles elle a débuté. Le monde peut être mis sans dessus dessous, l'araignée continue de tisser sa toile, permanence et patience. Attention cependant aux avertissements que lancent les spécialistes. L'araignée ne pourra revenir sur le tissu détérioré. Notre parcours de la semaine tiendra aussi en compte les représentations culturelles. Voici pour la bonne marche de l'histoire une légende qu'on retrouve dans le judaïsme, un peu dans le christianisme, beaucoup dans l'islam. À un moment de leur vie, le roi David, Jésus enfant ou bien le prophète, ont eu à se protéger de leurs ennemis. Quand il fait, ils se sont réfugiés dans une grotte. Et qu'a fait l'araignée qui se tenait à l'entrée de la grotte ? Elle a bien vite tissé une toile qui a trompé les poursuivants, lesquels ont poussé plus loin, persuadés que l'endroit était abandonné. Bien avant d'être sauvé ainsi, David avait demandé à Dieu « Pourquoi avoir créé cette petite bestiole inutile ?» Et Dieu avait répondu « Le jour où tu comprendras viendra. » Il n'y a pas de petite bestiole inutile, non plus qu'il n'y a de créature entièrement utile ou entièrement nuisible.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Bonjour Valérie Chansigaud.
Bonjour.
Vous allez nous accompagner toute la semaine avec votre inventaire de livres déjà très lourd, souvent publié. On y reviendra chez Delachaux et Niestlé, très vieille maison, un vieux label. Mais on va parler d'abord de vos tout débuts. Est-ce que, si je vous dis dans l'enfance, à Bron, c'était pas mirifique, dans une banlieue un peu triste, est-ce que vous aviez déjà une disposition à l'émerveillement, à vous mettre l'oreille sur la terre pour écouter la nature ?
Alors, la nature était pas très présente dans mon environnement d'origine, parce que dans cette banlieue, j'ai grandi dans un immeuble qui avait mon âge. La rue avait également été construite au même moment, ainsi que l'école et à peu près tous les commerces. Il n'y avait pas plus de traces d'ailleurs de nature, en dehors parfois d'une grosse blatte qu'on pouvait croiser dans la salle de bain, que d'histoire. Mais en tout cas, la nature m'attirait, alors même qu'elle n'était pas présente. Ça, très souvent, on explique qu'on a été en contact très tôt avec la nature, c'est pour ça qu'on l'aime. Je suis l'exemple absolument inverse, parce que il n'y avait pas vraiment de nature, et pourtant jamais la nature.
On parlera plus d'une fois dans ces émissions, et en tout cas aujourd'hui, de Jean-Henri Fabre, souvenir entomologique. J'étais un naïf garçon, avec des bretelles, une culotte courte, et je commençais à peine à me retrouver dans le grimoire de la lecture, mais j'étais en extase devant le premier nid trouvé et le premier champignon cueilli. Donc rien de tel chez vous ?
À part quelques rares moments que j'ai pu passer effectivement à la campagne quand j'allais en vacances chez mon oncle et ma tante qui habitaient Chaponneau, qui c'est d'ailleurs les rares moments vraiment de bonheur que j'ai pu avoir quand j'étais gosse. Et là, effectivement, il y avait, c'était encore très rural, il y avait beaucoup de vergers, et je me souviens, par exemple, d'avoir récolté des graines. Les végétaux vraiment exerçaient sur moi vraiment une fascination, ou des pierres. Enfin, j'avais vraiment besoin de ce contact, et ça a toujours été fait sur, effectivement, un émerveillement, une fascination.
Que n'étiez-vous pas né à Paris ? À Paris, vous auriez rencontré les insectes du métro. Témoignage de François Turpin.
Brusquement, un jour, j'ai pris conscience que dans le métro, il y avait certainement des grillons. Pendant un bon moment, je me suis demandé si c'était vraiment des grillons, parce que je pensais que c'était peut-être les bruits des joints de dilatation, enfin, vous savez, les rails qui font des petits crissements comme ça. Et puis, je l'avais repéré du côté de, je crois que c'était Opéra. Et puis, il n'y en avait que dans une station dans ce coin-là. Et puis après, je me suis aperçu qu'il y en avait dans d'autres. Je crois que c'était Chaussée-d'Antin ou... Enfin, des stations proches d'Opéra. Et de là est venue l'idée, dans ma tête, comme ça, que peut-être qu'ils avaient fait souche à Opéra. Et puis que petit à petit, ils étaient en train de prendre possession des... Pas des couloirs du métro, mais des galeries du métro. Il semblerait qu'ils y trouvent à la fois... la chaleur, c'est-à-dire un climat tampon, sans grosse différence thermique, il n'y a pas d'hiver, pas d'été, enfin, pas vraiment. Et en plus, il y a la chaleur des résistances des voitures. Puis, il semblerait aussi que ça soit lié à l'humidité, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un minimum d'humidité pour la ponte. Il y a plusieurs espèces d'araignées qui vivent dans le métro, dans les galeries, qui sont des araignées cavernicoles, d'ailleurs, qui sont donc bien adaptées à l'obscurité. Ce sont des toutes petites araignées qui font entre 5 et 8 mm, enfin des petites espèces, donc qui se nourrissent de grillons à leur stade larvaire, des tout jeunes grillons, dont on peut penser en tout cas qu'elles participent à la limitation des populations de grillons.
Mais il faut avoir une disposition à l'émerveillement. Moi, j'entends pas de grillons dans le métro.
Mais on les entend plus, surtout. Parce que la loi Evin qui interdit de fumer dans les espaces publics fait qu'il n'y a plus de mégots qui sont jetés sur les voies. Et le reste de tabac qu'il y avait sur les mégots suffisait à nourrir les grillons. Et donc, la disparition du grillon parisien a été liée, il y a sans doute d'autres causes, à la disparition des fumeurs dans l'espace public.
Mais je comprends mieux votre titre pour cette série, La Toile. Ce qui vous intéresse, c'est les interdépendances.
Oui, c'est le lien. C'est les liens, tous les fils qui nous unissent à cette nature, que ce soit les araignées ou d'autres choses, parce que d'une certaine façon, on existe... Le plaisir qu'on peut avoir d'écouter une bonne musique, de voir un bon film, etc., on peut l'avoir aussi en admirant, en regardant la nature, en regardant le comportement animal ou le développement, par exemple, d'une plante. C'est le même genre d'émerveillement.
Si j'ai bien compris, dans votre enfance, les possibilités d'écouter de la musique, d'aller voir un bon film, étaient minces et vous avez eu envie de quitter votre famille assez vite.
Oui, dès 18 ans, parce que j'avais vraiment un besoin de quitter cet environnement-là pour me donner la possibilité de me satisfaire de mon besoin irrépressible de culture, de connaissances, de lecture.
Mais on va dire que vous avez découvert assez vite le milieu anarchiste. Il y a un grand anarchiste qui s'appelle Max Stirner et qui parle de la souveraineté du caractère.
Stirner a joué un rôle tout à fait fondamental dans ma vie parce que une professeure, je devais avoir 16 ans et demi, m'a donné un recueil de textes anarchistes dans lequel il y avait Stirner. Et Stirner m'a montré pour la première fois la possibilité, de critiquer mon environnement, que ce soit familial, l'école, et d'arrêter de me sentir isolé ou pas à ma place. En quelque sorte, c'était pas à moi de me fondre dans le moule, mais de casser le moule pour pouvoir exister. Et c'est ce que j'ai fait un petit peu plus tard.
Oui, mais enfin, vous avez dû commencer modestement. Hein, c'est à peine... comptabilité, vous n'avez rejoint le monde des études supérieures que par une passerelle, j'allais dire par un fil de toile d'araignée, les métiers de l'édition.
Oui, alors il y a eu une longue période de relative galère, mais en même temps je me contentais de vivre avec ce que j'avais. J'ai toujours vécu avec peu en fait. Et les études en fait, ça a été beaucoup plus tard, après avoir travaillé.
Dites-moi, la domination de l'homme par la nature, à la lumière de cette expérience, la galère, l'anarchisme, ça n'est pas sans ressembler à la domination de l'homme par l'homme.
C'est aussi pour ça que je me suis intéressé aux araignées, ce qui peut paraître...
aux araignées. Vous avez 18-20 ans, vous allez créer Pénélope, la revue consacrée aux araignées, aux faucheux, aux scorpions et aux pseudo-scorpions. Mais expliquez.
Il n'y avait pas de difficulté pour trouver des flores, des faunes sur les oiseaux, des guides ornithologiques. Ça, c'était pas très difficile. Mais sur les araignées, alors que j'en voyais absolument partout, je ne trouvais strictement rien. Et j'ai parlé autour de moi des premières découvertes que je faisais en m'initiant comme ça au monde des araignées, et j'ai suscité des réactions qui dépassait complètement mon entendement. C'est-à-dire, je voyais ce que les araignées étaient, c'est-à-dire des animaux passionnants avec des mœurs extrêmement variées, et je voyais des réactions de dégoût, voire de phobie complète, et je voyais pas le lien entre les deux.
Ah, une araignée là, la soupilla.
Oh, elle est énorme, je vais la tuer.
Laissez cette petite bête tranquille.
Jamais de la vie.
Laissez cette petite bête tranquille, vous dis-je.
Qu'est-ce qui vous prend? Une araignée?
Eh bien oui, c'est une araignée, et après? Est-ce que toutes les bêtes du bon Dieu n'ont pas le droit de vivre et de respirer? Je ne vois pas pourquoi vous écraseriez une araignée qui ne vous a rien fait.
La maison est assez délabrée, je veux au moins qu'elle soit propre!
Tenez-la propre et laissez les araignées en paix! Araignée, ma sœur, sois la bienvenue chez nous.
Oh, Victor, c'est répugnant.
Non, tu n'es pas une bête répugnante. Ton corps a la forme d'un bel ovale. Tu es comme la fleur d'un fil de la Vierge.
Je voudrais bien savoir pourquoi vous témoignez tout d'un coup tant de sympathie aux araignées.
Martine Sarcey et Philippe Moiret dans une adaptation par Yves Robert de Clérambard, de Marcel Aimé. Ben oui, c'est la faible, c'est l'opprimé. C'est ça, en fait, hein, qui
vous attire. Un petit peu, oui. Oui, j'ai eu à cœur de me battre pour faire découvrir quelque chose qui le méritait et de faire en quelque sorte de tromper ce proverbe africain qui dit avec justesse que tant que les histoires de chasse seront écrites par des chasseurs, elles ne glorifieront jamais le lion. Et c'était une façon de changer en fait ce regard et d'essayer de sensibiliser, de faire comprendre que derrière la répulsion qu'on pouvait ressentir spontanément, qui n'est pas raisonnable, il y avait des choses absolument merveilleuses à découvrir.
Bon, c'est par les bibliothèques que vous êtes en contact avec le monde, parce que vous êtes un peu en retrait quand même de la vie sociale.
Oui, j'ai jamais été un animal social extrêmement efficace.
Oui, mais là, vous allez tisser des liens avec d'autres passionnés. Et vous constituez une petite famille d'amis de l'araignée, jusqu'à ce que l'araignée soit l'ami des hommes et des femmes.
Oui, puis c'était une façon de faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire raconter les choses, raconter des histoires, expliquer. J'ai toujours eu ce besoin-là, c'est-à-dire c'était pas simplement que découvrir le monde, c'était aussi quelque part d'essayer de le comprendre et de le comprendre pour l'expliquer après.
Alors, je ne sais pas si vous avez commencé à ce moment précis vos études pour un DESS de métier de l'édition, mais avec Pénélope, la revue, qui va bien avoir peut-être 1000 lecteurs par numéro et plusieurs centaines d'abonnés, vous apprenez tout du métier, hein, la mise en page, la maquette,
oui.
L'illustration.
Oui, parce que c'est vraiment de l'artisanat. Et en même temps, je voulais vraiment que ça soit le plus agréable possible, le plus efficace possible en tant que support d'apprentissage. Je voulais pas que ça soit bâclé. Donc, très vite, j'ai découvert le code typographique, les règles de mise en page, la présentation.
Bon, on sent un peu votre méthode et puis votre goût de la classification, enfin de l'efficacité. Et il y a combien d'espèces d'araignées d'ailleurs en France? 1500?
En France, oui, à peu près, oui. Un petit peu plus, je pense.
Et comment on étudie les araignées? On les tue, j'espère.
Ah, ça, c'est quelque chose qui fait hurler certaines personnes quand elles ont envie de s'initier aux araignées, parce que tout le monde n'a pas envie de tuer des araignées, sauf que la plupart des araignées sont petites, voire très petites. La majorité des espèces mesurent à peine 1 ou 2 mm à l'âge adulte. Autrement dit, pour les observer, il faut les mettre sous une loupe binoculaire, et si l'araignée est vivante, c'est absolument impossible de l'observer. Donc on est obligé de les tuer pour le faire.
Comment avez-vous constitué un public et comment ensuite s'est constitué en 1990 la Société française d'arachnologie? Et pourquoi ça ne s'est pas fait avant vous et avant elle?
Alors, j'ai pas de relation avec cette société qui s'est créée. Mais lorsque j'ai lancé, par exemple, Pénélope, j'imaginais que j'aurais au mieux une trentaine, une quarantaine d'abonnés. Et puis, il y a eu très rapidement une sorte de bouche à oreille qui a été fait autour de cette revue. Et ça a été d'ailleurs très compliqué à gérer parce que il y a une immense différence à gérer une toute petite revue avec 30 lecteurs et de gérer subitement une revue avec plusieurs centaines de lecteurs, avec toute la correspondance que ça suppose, les achats des anciens numéros. Enfin bref, c'est des questions de gestion absolument vertigineuses.
Ailleurs, je sais pas, en Angleterre, c'est une question constante que vous posez dans tous vos travaux. Comment c'est dans les autres pays? Ailleurs, en Angleterre, il y a plus d'amateurs d'arachnologie.
Oui, beaucoup plus. Il y a un petit côté, je dirais, original, qui n'est pas aussi péjoratif qu'en France. Par exemple, l'une des meilleures spécialistes des punaises était la fille de Rothschild. Ce qui fait que quand on voit les lieux où des punaises ont été observées, on voit tous les lieux les plus huppés de France ou d'Angleterre. Et très vite, ce que j'ai observé, c'est que la difficulté que j'avais initialement pour trouver de la documentation, il suffisait de franchir la Manche, et là, il y avait beaucoup plus de choses.
On est d'ailleurs dans un film anglo-saxon, là, qui s'appelle Bug.
Merde.
Qu'est-ce qu'il y a?
Sale putain d'insecte, merde, viens me piquer.
Un insecte?
T'es où, petite saloperie?
C'est quoi comme insecte?
Regarde, les marques.
Oh putain, on dirait des piqûres d'araignées.
Ouais, je viens juste de les sentir, ça doit être des punaises, oui, des punaises de lit.
T'as dû les tuer en te retournant?
Non, je l'avais entre les doigts et elle a réussi à s'échapper.
Je le vois pas.
Là.
Où ça?
Juste là.
Ah, c'est ça?
Ouais, il est tout petit.
Ah ouais, je le vois. Qu'est-ce que c'est?
On dirait un aphidien.
Un aphidien?
Un aphidien, c'est...
Oh. Une punaise de lit?
Non, enfin oui, ce serait plutôt du genre lente.
Une lente? Non, pas un, il y a des poux?
Pas un poux qui va dans la tête, mais plutôt un poux des plantes.
Ah, le genre termite?
Non, ça c'est plutôt comme un trips.
Un trips?
Ouais, c'est un termite.
C'est pas une tique?
Non, une tique c'est une puce. Un trips c'est un termite.
Donc ce sont ces petites bestioles qu'affectionnait la fille de Lord Rothschild, immense collectionneur, oui, naturaliste oui. Par ailleurs. Ouais.
Un fou furieux de collection. Il avait la plus grande collection privée réunie, je pense, durant toute l'histoire de l'humanité, avec des centaines de milliers de peaux d'oiseaux, par exemple, ou des centaines de milliers d'insectes.
Mais c'est des nuisibles, là. Je vais pas reprendre l'énumération de la dame dans Bug.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors dans le cas des araignées, la mauvaise image des araignées est largement usurpée. C'est-à-dire, on a peur des araignées sans que ça soit véritablement un problème de santé, que ça soit en France ou à l'étranger. Il y a des araignées dangereuses, mais en fait, elles sont en nombre très petit. Si on veut chercher des petites bêtes effectivement dangereuses, il y en a, mais elles sont relativement anodines. Ça va être les moustiques, par exemple, qui peuvent véhiculer des maladies, éventuellement les tiques, éventuellement d'autres insectes ou arachnides hématophages qui se nourrissent de sang et qui peuvent transmettre des maladies à cette occasion. Mais
j'insiste sur le mot nuisible. Il y a un immense insectarium à Montréal. Dieu sait si les moustiques au Québec sévissent ou ont sévi. Le mot nuisible n'est jamais utilisé. C'est un immense panorama de la beauté, de la diversité, de la magnificence de nos frères les insectes.
Ça, c'est une question qui agite énormément la communauté des protecteurs de la nature et des scientifiques. C'est-à-dire, est-ce que on n'a pas abusé du terme de nuisible? Est-ce que tout ne serait pas utile? D'une certaine façon, on refait de la théologie naturelle telle qu'on pouvait le faire au XVIIIe siècle ou XIXe, au moment où on disait toutes les créatures de Dieu ont un sens puisqu'elles ont été créées par Dieu, et on refait un petit peu la même chose. Il est clair qu'il y a des animaux, des plantes, mais aussi des virus, des bactéries, beaucoup d'autres choses qui peuvent avoir un rôle néfaste pour l'être humain. C'est évident. Est-ce qu'il ne faut pas les désigner comme nuisibles? C'est un peu délicat parce que ça reste des espèces qui ont un impact négatif. Pour autant, c'est pas parce que ces espèces ont un impact négatif qu'il faut faire n'importe quoi à leur égard. Il faut arrêter d'imaginer qu'on va inonder la planète d'un océan de pesticides pour faire disparaître les moustiques. Parce que soit le remède est pire que le mal, soit la disparition par exemple des moustiques pourrait faire apparaître, ça c'est une hypothèse de certains scientifiques, des dangers beaucoup plus grands.
La cigale, hein. Dès qu'elle sent votre présence, elle s'arrête de chanter. Alors tu peux toujours courir pour la rattraper. Alors le secret, c'est qu'elle s'habitue à vous et qu'elle recommence à chanter.
Les cigales n'ont pas l'inconvénient de recouvrir d'autres observations possibles avec d'autres insectes?
Oui, à cause du bruit. Mais d'ailleurs, il y a des gens qui se plaignent de beaucoup de bruit de la nature. Par exemple, on cite ces personnes qui viennent s'installer à la campagne, qui portent plainte contre le fermier d'à côté parce qu'il a des coqs. La nature peut faire du bruit, fait du bruit. On est quand même plutôt dans une période où on entend de moins en moins les insectes plutôt que de plus en plus. Je vois pas vraiment beaucoup d'insectes qui seraient difficiles à observer à cause du chant des cigales. Ça doit être quand même assez limité.
Jean-Henri Fabre, dont on parlait tout à l'heure, et qui, à 56 ans, s'installe enfin dans une maison à lui. La première chose qu'il fait, c'est de clore avec avec un mur de 2 mètres de haut. Et puis il veut se débarrasser des cigales. Moi, je ne sais pas comment il a fait, parce qu'elles le gênent dans ses dispositif. Il a un jardin à la française, ça c'est pour les rares visiteurs, et puis il a deux espaces, dont un parc arboré, où il intervient le moins possible et où il voudrait que les cigales ne fassent pas trop de bruit.
Calme et richesse de la plaine du Vaucluse, à l'ombre du géant de Provence, le Mont Ventoux, une toute petite ville, presque un village, Sérignan. Une maison, enfin, qui abrita les travaux des plus hautes et des plus pures gloires du monde civilisé. L'un des plus savants naturalistes et le plus merveilleux des poètes au sens moderne et vraiment légitime de ce mot, la citation est de Maurice Maeterlinck, elle concerne Jean-Henri Fabre. Cette maison et son parc demeurent tels que le grand entomologiste les a quittés. Un parc resté sauvage, où Jean-Henri Fabre, inlassablement, regardait vivre le menu peuple des insectes. Quelque part, dans ses souvenirs entomologiques, il a décrit cette contemplation. En mai, vers les 10 heures du matin, lorsque les travaux d'approvisionnement sont en pleine activité, je visite chaque jour ma bourgade la plus populeuse. Assis sur une chaise basse, au soleil, le dos courbé, les bras sur les genoux, jusqu'au dîner, je regarde immobile.
L'observation immobile, dans la durée, voire la contemplation.
Fabre est un exemple tout à fait particulier en France, on pourrait d'ailleurs considérer qu'il est unique en son genre, de ce que j'appelle les biographes de la nature, c'est-à-dire ceux qui parlent de la nature non pas pour en faire un cadre pour une histoire proprement humaine, mais qui vont parler de la nature pour elle-même, la décrire avec le minimum d'effets et le maximum de précision. Il y a énormément d'exemples similaires dans le monde anglo-saxon et très peu en France. Et Fabre va être similaire à certains des grands auteurs anglo-saxons, c'est-à-dire il est étroitement associé à un lieu. C'est pas du tout un explorateur intrépide qui va parcourir les mers et les continents. Il va effectivement considérer qu'il faut du temps pour voir la nature. Parce que c'est cette idée que il faut être vraiment le à la fois humble et regarder une nature se faire, une nature ordinaire. C'est souvent d'ailleurs la nature la plus ordinaire qui est la plus passionnante.
Mais c'est la narration des vies d'insectes ou c'est la narration de la vie de Jean-Henri Fabre?
Ah, ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut arriver à raconter la vie des animaux, ou encore pire, des plantes, sans faire d'anthropomorphisme, sans transformer ces animaux et ces plantes en une sorte de reflet altéré de nous-mêmes? Dans le cas des araignées, d'ailleurs des insectes avec Jean-Henri Fabre d'une façon beaucoup plus large, c'est une question qui est vraiment intéressante parce qu'on se rend bien compte qu'il est difficile, par exemple, d'attribuer des sentiments humains à une araignée ou un insecte. La face, je dirais presque le visage d'une araignée est passablement immobile. Il n'y a pas d'expression, il n'y a pas de sourcils, il n'y a pas de muscles sur l'avant du corps. Ce sont des statues, quelque part. Et donc, c'est difficile d'extrapoler ce qu'elles peuvent ressentir.
D'autant que chez Fabre, comme chez Buffon, dont on aura l'occasion de parler, il y a le style. Le style, c'est l'homme.
Oui.
C'est une écriture.
Fabre est non seulement un biographe de la nature absolument remarquable, mais c'est un écrivain. Enfin, les personnes qui aiment la langue française doivent se ruer, si elles ne l'ont pas déjà fait, sur les souvenirs entomologiques de Fabre, parce que c'est un vrai délice, c'est un vrai bonheur de découvrir, d'être emporté. Il sait admirablement prendre son lecteur en quelque sorte par la main pour l'emmener avec lui voir l'insecte qu'il admire ou l'araignée qu'il étudie.
Mais vous m'étonnez, parce que demain on parlera de la théorie de l'évolution. On dit que Fabre est dépassé, il est largement oublié, sauf peut-être par les écoliers japonais qui doivent lire ses souvenirs entomologiques. Et vous, vous le défendez?
Qu'il soit imprécis scientifiquement, qu'il ait raté le coche du darwinisme, ça ne fait absolument aucun doute. Ça reste quand même une œuvre d'initiation à la nature, avec toutes ses imperfections, et peu importe d'ailleurs, absolument remarquable.
Il mettait en place des dispositifs. Il construit son mur de 2 mètres et puis il s'aperçoit que les guêpes s'intéressent beaucoup à ses activités. Ou vous recommandiez dans Pénélope les vieux plastiques là, qu'on met sur les pneus ou sur les récoltes.
Les bâches.
C'était pour vous un formidable moyen d'observation.
Oui, parce que dessous les bâches, en fait, il y a toute une vie qui s'installe, et une vie qu'on ne verrait pas sans doute autrement. On pourrait éventuellement saisir certaines de ces espèces sous les pierres, sous des souches qui seraient à terre. Mais effectivement, c'est l'occasion de voir des animaux qu'on ne croiserait pas autrement.
Dessous les bâches, ça pourrait être un titre pour notre série Valérie Chansigaud, qu'on continuera demain en parlant des oiseaux. Et si on a conservé les oiseaux, et si on les a protégés assez vite, c'est parce qu'ils étaient insectivores. Et la protection des insectes, d'ailleurs, ça...
Elle naît beaucoup, beaucoup plus tard. Ouais. Mais vraiment beaucoup plus tard.
Est-ce que vous connaissez cet écrivain italien, Guido Seronetti, Insectes sans frontières, nouveau texte en français? Il veut fonder une association à but non lucratif destinée à défendre la liberté de piquer et à sauvegarder les insectes, parce qu'il faut être à l'écoute du bourdonnement des ruches, du cœur des cigales et du chant des grillons. Et vous savez que comme il n'avait pas beaucoup d'argent, comme vous, Valéry Chansigaud, le président de la République italienne lui a donné une rente jusqu'à la fin de ses jours pour travailler à sa guise. Un bel exemple pour vous. On se retrouve donc demain. Cette émission a été préparée par Martin Cellier avec à la technique Paul Percheron. La réalisation, c'était Liscombe.